When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 214 du podcast J'en Actuel. On a été très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des rencontres NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour.
Salut Alain, bonjour à tous.
J'aime bien quand tu tiens ton micro à la main, comme ça on dirait Johnny Hallyday en France.
Bonjour Alain.
J'ai pas de support aujourd'hui, donc je ne peux pas tricher.
Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, tous les dimanches soirées Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres, ne ratez pas ça. Spécial NFC Nord dans les matchs de la semaine, on fait le point sur cette division très relevée, tous les matchs de la semaine aussi bien évidemment. Et je commence plus doucement que d'habitude parce qu'on a un petit concours, parfois on a des petits trucs qui traînent et qu'on a envie de vous faire gagner. J'en ai accumulé plein ces dernières années, des programmes, des écharpes, des porte-clés, des machins. Tous ces petits trucs, on veut les réserver aux auditeurs, pas forcément aux gens qui font tous les concours à l'appel sur Twitter, on vous a vu, ceux qui s'inscrivent que pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que dans certaines émissions maintenant, on va vous proposer un petit truc de notre réserve à gagner et on va l'offrir à quelqu'un qui partage l'émission, c'est-à-dire aidez-nous à nous faire connaître, c'est-à-dire retweeter l'annonce de l'émission, donc l'épisode la 314 sur Twitter, partager le post Facebook qui annonce l'épisode 314 ou partager dans votre story Instagram l'image qu'on met pour annoncer l'épisode 314. Dans cela, on fera un tirage au sort et il y en a un qui gagnera un programme du match Bears Raiders de Londres qu'on a ramené de Londres il y a quelques semaines et on l'envoie au hasard à celui qu'on a tiré au sort parmi les auditeurs qui ont partagé l'émission. Donc n'hésitez pas à nous aider à nous faire connaître et on fait gagner un truc de temps en temps. Donc cette semaine, c'est un programme du match Bears Raiders qui sera envoyé chez vous. Voilà, il y aura plein de petits trucs à faire gagner comme ça, on essaiera d'en faire un par semaine, hein, toutes les deux semaines, un coup dans l'émission du mardi, un coup dans l'émission du jeudi, un coup dans le fauteuil, on va alterner un petit peu comme ça. Voilà, ça fera des souvenirs. Voilà pour la petite aparté de début d'émission. Greg, tu es prêt à parler de tout ça, de la NFC Nord, tu es chaud?
Tout à fait, prenons la direction du Nord tout de suite.
Alors, premier jingle dansant.
He's 5'9 Blitzen, thinks. Takes the handoff to Jones. Now he's going to run with it. He's going to walk it in. Aaron Rodgers with the touchdown.
Tu es chaud, Greg?
Pour chanter avec toi, non.
Comment?
Pour chanter avec toi, non, mais pour parler des matchs, pourquoi pas.
Je me suis fait tellement plaisir, je ne sais pas pourquoi j'écoute beaucoup ABBA ces derniers temps, et je viens de réaliser que ABBA vient du Nord et qu'on parle de la NFC Nord. Je n'y avais même pas pensé en créant le jingle. T'as vu un peu? Packers 42, Raiders 24. 429 yards, 5 touchdowns à la passe, 1 touchdown au sol. Évaluation parfaite. Le patron de la NFC Nord est de retour, c'est Aaron Rodgers. Grégory, est-ce qu'on a retrouvé des Packers favoris et très forts favoris? Et surtout, est-ce qu'on a retrouvé leur attaque?
Bah là, en tout cas, ces dernières semaines, ils ont l'air un petit peu énervés, nos amis Packers. Alors, je dirais pas que le match contre Philadelphie les a réveillés dans ce domaine, parce que c'est pas forcément offensivement qu'ils avaient perdu le match contre Philadelphie lors du Thursday Night Football. Mais en l'occurrence, comme tu l'as dit, c'est vrai que on avait une attaque un petit peu sur courant alternatif, en tout cas de mon propre ressenti, où on sentait qu'Aaron Rodgers avait un petit peu de mal à donner son plein potentiel dans le nouveau système de Matt LaFleur depuis le début de la saison. Là, très clairement, sur ce match-là, même si le backfield défensif d'Oakland n'est pas le plus rassurant de la ligue, de voir l'assurance qu'il a réussi à dégager avec quasiment que des passes complétées sur ce match-là et surtout le bon rythme pour permettre à Green Bay de creuser l'écart petit à petit en fin de match, ça dénote en tout cas le fait que a priori enfin offensivement on a l'air d'avoir trouvé la pleine mesure de cette escouade, en tout cas la pleine capacité de ce groupe, et c'est de bonne augure pour Green Bay avec là encore un Aaron Jones par exemple dont je parlais et qui a fait les jeux au sol, qui va en plus chercher un touchdown longue distance à la réception. Donc vraiment offensivement tous les voyants ont l'air ouverts du côté du Wisconsin.
Et un très beau touchdown à la réception pour Aaron Jones en plus, hein. C'est quand même une très très belle action. Il a 8 receveurs avec au moins 2 réceptions, Aaron Rodgers, sans Davante Adams, qui est quand même son receveur numéro 1, et seulement 60 yards au sol. Donc il y a un vrai équilibre offensif qui est quand même en train de se trouver dans cette attaque de Matt LaFleur. La défense, du coup, prend quand même des points, mais il y a le boulot offensif. On est quand même face à une équipe de Green Bay, là, qui on cherche depuis des semaines des favoris, ou... Alors, je ne sais pas si on cherche des favoris, mais on a une NFC en tout cas qui est beaucoup plus homogène que la AFC où il y a un très très gros leader. Là, ça commence quand même à se dessiner. On va parler de certaines autres équipes derrière, mais les Packers, on va dire, font partie du trio maintenant de tête très très claire de la NFC.
Oui, très clairement. Et puis c'est vrai que là, en l'occurrence, on n'a pas eu une énorme défense, comme on a pu le voir, de la part de l'équipe de Mike Pettine, mais il y a eu des actions clés qui ont été réalisées quand il le fallait. Je pense notamment à cette action où les Raiders sont en position goal line alors que Green Bay ne mène que 14 à 10. Et il y a ce fumble qui est provoqué, qui est récupéré par Green Bay. Et derrière, c'est sanctionné sur un touchdown de plus de 90 yards de la part de Green Bay. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forme d'homogénéité. Et en effet, le fait de voir que Green Bay est complet des deux côtés du ballon, ça en fait forcément un candidat crédible pour éventuellement aller chercher au moins la finale de conférence NFC en fin d'année.
Et Aaron Rodgers revient à un niveau... On va pas changer toutes les semaines, mais il peut revenir dans la course au MVP quasiment pour la première fois depuis longtemps, parce que ces dernières années, il n'était pas forcément dedans.
Non, alors... Très clairement, c'est ça. C'est parce qu'après, c'est vrai qu'on a tendance, on a des standards en fonction des joueurs, forcément, toujours un peu flexibles. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, je le disais, on n'a pas un Aaron Rodgers qui marchait sur ses adversaires à la passe. Maintenant, il faisait pas des matchs catastrophiques non plus. Il n'y a pas de prestations à 2 ou 3 interceptions non plus, sauf erreur de ma part. En tout cas, il n'y a pas un match que je sors du lot plus particulièrement. Donc, c'est vrai que... Bon, il a peut-être pas la carburation qu'on dote depuis le début de la saison, mais oui, il peut rester en tout cas parmi les principaux fers de lance offensifs de cette année, en espérant en tout cas pour Green Bay que ça continue sur cette lancée d'ici la fin de la saison régulière.
Les Raiders sont pas loin dans ce match, il y a un fumble de Derek Carr dans le second qui fait très très mal, ils sont sur le point de marquer pour repasser devant, finalement ils perdent le ballon, c'est l'action dont tu parlais sur la goal line, derrière donc ils prennent un touchdown, ça fait 21-10 alors qu'ils auraient pu repasser devant. Carr a fait une grosse erreur, mais il y a encore des motifs d'espoir. S'ils se tiennent à ce qu'ils font dans la reconstruction, Josh Jacobs est encore à 124 yards, Darren Waller est encore à 7 réceptions, 126 yards et 2 touchdowns, alors ils sont un peu seuls en termes de playmaker, mais si les Raiders se tiennent à ce noyau Carr, Jacobs, Waller et qu'ils continuent à bien l'entourer, il y a quand même moyen de faire quelque chose, non?
Oui, non, mais très clairement sur ce match-là, alors c'est pas offensivement en tout cas où je tirais un petit peu sur Oakland, surtout qu'en plus il leur manquait des joueurs sur la ligne offensive, il y a toujours la problématique Trent Brown notamment sur le poste de tackle. Donc je trouve qu'offensivement ils ont fait un peu avec les moyens du bord, je trouve même bien plus avec en effet des Jacobs, des Waller notamment qui ont été performants contre une défense contre Green Bay, c'était pas donné. Après, forcément, et on sait que Oakland cherche d'ailleurs dans ce domaine-là avant la trade deadline. Il y a encore des choses qui interrogent sur le front 7, l'absence de Vontaze Burfict qui reste compliquée à compenser, le pass rush où il y a d'autres menaces à trouver, et encore une fois, ce backfield défensif où il faut trouver d'autres solutions, avec en plus le départ de Gerrion Conley qui a été échangé à Houston. Il y a des ajustements à trouver défensivement, mais offensivement, voilà, depuis le début de la saison, Oakland est là. Les défaites qu'ils ont depuis le début de la saison, il n'y a rien de déshonorant. Ils avaient perdu à Minnesota, ils font Kansas City, Minnesota et Green Bay. Je pense qu'en termes de défaite, il y a pire. Mais oui. Voilà, on parlait de Green Bay tout à l'heure. Je pense que cette homogénéité des deux côtés du ballon va clairement falloir la trouver pour John Gruden pour vraiment pouvoir prétendre durablement au wildcard AFC.
Après, ça te montre bien la différence entre une très bonne équipe prétendante comme Green Bay, qui est profonde, et une équipe comme Oakland qui a des bonnes pièces pour reconstruire mais qui est encore sur le fil du rasoir, c'est-à-dire tu peux pas te permettre de perdre des ballons qui font aussi mal et la défense voilà a quelques errements et voilà ils sont sur le fil, ils peuvent aller chercher des matchs, mais contre des grosses équipes comme ça il y a un moment où ça finit par casser quoi. Le gros rival de Green Bay dans la division NFC Nord, ce sont les Vikings qui se sont imposés 42-30 face aux Lions. Est-ce qu'on a plus qu'une division à deux équipes déjà, parce qu'on avait dit à un moment au début de l'année c'est très très fort de haut en bas dans cette division, les Lions avaient pas trop mal commencé, ils étaient accrocheurs, les Bears s'appuyaient sur la très grosse défense construite l'an dernier et on espérait des progrès de Mitch Trubisky, on va y revenir. Là, on semble quand même déjà avoir une course à deux équipes maintenant, c'est réduit.
Oui, là, a priori, en plus avec le fait d'aller gagner à Détroit du côté de Minnesota, c'est sûr que là, on commence à avoir des écarts qui se font. Alors, Chicago, ils sont à 3-3, mais on a plus que deux équipes à un bilan positif. Donc à mon avis, oui, ce serait pas étonnant que la finale d'NFC Nord se joue en fin de saison du côté de Minnesota, je crois.
Oui, il se joue en semaine 16. Dans le Minnesota. Kirk Cousins, troisième match de suite avec au moins 300 yards à une évaluation de 135 au minimum. Il est en feu, il a 10 touchdowns et une interception en 3 matchs. Est-ce qu'on peut dire qu'il mérite son contrat du coup? Parce que j'ai remarqué, personne ne dit tiens, il mérite son contrat quand il joue bien. Parce que tout le monde dit qu'il mérite pas son contrat quand il joue mal. On peut peut-être dire qu'il mérite son contrat sur les trois dernières semaines. Là. 3 matchs à 135, 10 touchdowns pour une interception, excusez-moi, c'est quand même des chiffres.
Je suis jamais un grand fan des discussions autour de la valeur des contrats des joueurs. Mais en l'occurrence...
Moi non
peut...
plus, hein, sur le fond, mais c'est pour la blague. Mais je veux dire, oui, on souligne moins quand il joue bien.
J'entends bien ce que tu dis. Après, voilà, ce que je dirais surtout, c'est qu'au moins... On voit quelque chose qui a souvent été reproché à Kirk Cousins, c'est que il a quand même du caractère. Quoi qu'on puisse en dire, c'est vrai qu'on le prenait souvent pour un joueur qui avait beaucoup d'errements mentaux au cours de ses prestations. Et là, en l'occurrence, on voit que depuis le petit accroc qu'il y a eu, alors je sais plus contre qui, je sais que c'était à l'extérieur, mais je sais plus lors de quel match, à Chicago, il me semble. L'accrochage qu'il y avait eu notamment avec Adam Thielen et Stephon Diggs, ça a l'air quand même de se remettre dans le bon sens. Donc il y avait des adversaires qui restaient à leur portée, il me semble, pendant cette période-là, même si Philadelphie fallait les taper à la maison. Là, en l'occurrence, du côté de Détroit contre une équipe, en effet, qui peut se sublimer à domicile contre des grosses écuries, on l'a vu l'année dernière, on l'a encore vu cette année contre Kansas City, et les Vikings, ils sont restés appliqués de bout en bout, en se faisant certes rattraper de temps en temps, mais en marquant toujours les touchdowns qu'il faut au moment où il faut, et c'est surtout ça qui est impressionnant, c'est cette efficacité. Ils ne gagnent pas seulement les matchs à l'extérieur, ils concrétisent vraiment les drives qu'ils ont avec des touchdowns, et avec un Stephon Diggs, qui a l'air de marcher sur l'eau depuis quelques semaines également. Donc Irv Smith également, le tight end qui commence à être intégré au playbook, Dalvin Cook qui est le running back le plus productif de la ligue. Donc là encore, offensivement du côté de Minnesota, c'est comme Green Bay, ça tient la route globalement depuis le début de la saison.
Et tu parlais de Dalvin Cook, une des nouveautés aussi de ces dernières semaines, c'est qu'il y a plus de play-action et qui s'appuie bien sur ce que crée Dalvin Cook pour libérer aussi Kirk Cousins avec des play-action et dynamiser un peu ce jeu au sol. Et tu parlais de l'efficacité, 9,1 yards par passe. Si on t'avait dit au début de l'année que ce serait Minnesota qui aurait la meilleure moyenne de yards par passe de la ligue, on n'aurait pas forcément cru, même il y a 3 semaines. Ils sont à 9,1 yards par passe et là ils gagnent 503 yards en attaque. Donc il y a clairement matos. Après, la question sur Minnesota, parce qu'ils sont très complets, c'est un peu comme Green Bay, la question là par contre c'est qu'ils n'ont pas Aaron Rodgers, donc c'est est-ce que ça va durer, est-ce que ça va durer dans les grands matchs,
est-ce que ça va tenir en playoff s'ils y vont, et j'en parlais depuis quelques semaines maintenant, ils n'ont pas un calendrier simple non plus, les Vikings. Hein. Ils vont se déplacer à Dallas, ils vont se déplacer à Seattle contre beaucoup d'équipes qui vont être au coude à coude avec eux, justement, dans l'optique d'une qualification pour les playoffs NFC. Et justement, les fameuses failles mentales que j'évoquais de Kirk Cousins tout à l'heure, là, on va voir si elles sont vraiment effacées et s'il va réussir à emmener avec lui le reste de l'équipe, ce qui a l'air d'être le cas actuellement du côté de Minneapolis.
Les Lions lâchent en fin de match, ils prennent deux touchdowns dans le dernier quart, Matt Stafford lance une interception. Est-ce qu'on en est là, c'est-à-dire bonne équipe, mais encore trop courte pour lutter avec les meilleurs jusqu'au bout?
Honnêtement, quand t'as dit il craque sur la fin, oui, j'allais te dire comme d'habitude. Malheureusement, c'est peu importe les coaching staff, je sais pas, c'est quelque chose où c'est un problème. Là, pour le coup, le problème mental, il est quand même assez criant et il y a encore et toujours les mêmes problématiques du côté de Détroit. Encore un jeu au sol qui est pas suffisamment performant, encore une défense, je dirais. Alors, bon, si elle est pas aidée par l'attaque en fin de match, mais en tout cas, une défense qui a beaucoup plus de difficultés à créer des turnovers en fin de match. Et on se retrouve forcément dans des scénarios où Détroit se dit on n'est pas si loin que ça, mais maintenant il se retrouve avec une fiche négative qu'il ne devrait même pas avoir à mon sens, hein, parce qu'il y a toujours ce match nul contre Arizona qu'ils peuvent regretter. Et malheureusement, le match à Arizona ils peuvent le gagner, le match contre Kansas City ils peuvent le gagner et se dire bon, on a perdu contre Minnesota mais on peut se refaire. Là, la course au playoff NFC, ça commence sérieusement à se gâter pour les joueurs de Matt Patricia quand même.
Il y a quand même Marvin Jones, donc il y a un match à 10 réceptions pour 4 touchdowns, une réception sur 2 dans la end zone. Mais oui, c'est dommage, il y a du matos. Le prochain, donc Vikings Packers, c'est en semaine 16. S'il devait se jouer aujourd'hui, tu prends qui?
Minnesota a l'air costaud à la maison quand même.
C'est vrai.
Après, on a vu que le match aller du côté du Lambeau Field, c'était pas joué énormément de choses. Je crois que c'était terminé à 20-17 ou 21-17, quelque chose comme ça.
C'est un petit score.
Ouais, je pense que ça jouera à moins d'un touchdown d'écart. Je donnerais quand même peut-être mes faveurs aux Vikings. Mais encore une fois, de ce qu'on voit de Green Bay depuis le début de la saison, j'y mettrais pas ma main à couper non plus. On a vu que Minnesota a perdu à Chicago, ce qui n'était pas le cas de Green Bay par exemple.
Je parie sur le quarterback, je parie sur Aaron Rodgers, il est en feu là. Donc, ça me met en joie, j'aime bien quand les grands quarterbacks jouent à leur niveau. Bears 25, Saints 36, tiens, en parlant de grands quarterbacks, est-ce que la saison des Bears est déjà foutue? À 3 victoires, 3 défaites.
Non, oui, non, foutue, je sais pas, mais en tout cas... C'est compliqué, ils ont pas que des défaites déshonorantes, encore une fois les deux dernières c'est Oakland et New Orleans qui font quand même des bons débuts de saison.
Ouais. Alors je sais pas si la défaite est déshonorante, mais avoir 8 drives de moins de 10 yards dans un match...
Moi, si tu veux,
pas loin d'être déshonorant.
Moi si tu veux, à mon avis, on revient dans les fameux travers qu'on pouvait reprocher à Matt Nagy. C'est le play call est quand même hyper suspect sur ce match-là. Alors je veux bien que Chicago ait rapidement fait la course pour revenir, parce qu'ils se sont menés, il me semble, 9 ou 12-0 assez vite. Enfin, en tout cas, 9-0, je crois. Et ils arrivent quand même à reprendre l'avantage. Et malgré ce, t'as des appels de jeu qui sont hyper déséquilibrés. Seulement 7 courses sur 61 snaps.
54 passes lancées en effet, ouais, par Mitchell Trubisky.
C'est quand même un petit peu limite. Je vois bien que le jeu au sol de Chicago soit pas hyper carré depuis le début de la saison, mais bon, on en revient toujours à la même chose. Là, c'est vraiment mettre énormément de pression sur un joueur comme Trubisky, qui très clairement aujourd'hui a peut-être pas encore les épaules pour tenir ça. En plus, contre une défense des Saints, qui là, même si elle a pris un peu plus de points, il y avait du pass rush, il y avait quand même de quoi lui mettre la pression sur toute la durée d'un match.
Alors, défense très bonne, on est d'accord, mais est-ce que quand même Mitchell Trubisky ne progresse pas, ça c'est sûr, est-ce qu'il ne régresse pas même un petit peu? Il n'est pas précis?
Je sais pas, mais encore une fois, c'est compliqué de se faire une idée sur ce type de scénario-là. Moi, je te dirais vraiment, s'il avait fait un match vraiment avec moins de 50% de passes complétées, vraiment que des... Un paquet d'interceptions ou vraiment aucun impact vraiment sur le jeu offensif. Là, il a essayé de créer des choses. Encore une fois, il y a des drives où ça passe, des drives où c'est beaucoup plus brouillon. Et en effet, bon, ça revient du côté de Chicago en fin de match alors que la décision est déjà faite en faveur des Saints. Maintenant, je comprends pas la décision de mettre autant de responsabilités contre les Saints. On a l'impression que Matt Nagy est arrivé en se disant bon, on sait que le run stop de New Orleans est efficace, donc on va pas prendre de risque entre guillemets, on va pas risquer d'envoyer les running backs au carton, on va plutôt miser sur le quarterback. Sauf que le quarterback, c'est pas forcément le même jeu. Régresser, je sais pas. Maintenant, encore une fois, oui, c'est clair qu'il progresse pas, mais c'est pas sur ce type de rencontre là que, à mon avis, il va progresser.
Alors après, là où je partage, c'est qu'en effet, l'attaque en général a du mal. On l'a vu notamment à Londres contre les Raiders, par exemple, où ils ont eu un éclat dans le troisième quart, mais relativement, ça avait été très laborieux le reste du temps. Mais moi, j'ai une petite quand même inquiétude là-dessus. On me disait, moi, pour Trubisky, regarde Jared Goff, il n'avait pas un bon coach, et puis en première année, et puis derrière, il a progressé, etc. Mais j'ai pas l'impression que Trubisky progresse, que ce soit statistiquement ou même dans l'impression qu'il donne sur le terrain. Donc ça va
Non
être.
mais encore une fois, moi je suis d'accord avec toi. Après, ce serait bien qu'on mette toutes les cartes un minimum en sa faveur également. Et là, en l'occurrence, si t'as pas un jeu au sol capable de vraiment te soulager, comme ça pouvait
Ça,
être un
c'est sûr.
minimum le cas l'année dernière, et surtout une ligne offensive qui, je trouve, est moins bonne cette année. Voilà,
Non mais
c'est
y
pas
a tout
dire que
ça, on est
Trubisky
d'accord.
arrivera au niveau de Jared Goff, mais en tout cas, c'est encore difficile de vraiment juger de manière totalement objective. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, de le juger vraiment à sa juste valeur actuellement.
Donc tu ne commences pas à penser à d'autres solutions.
Non, c'est sa deuxième saison comme titulaire.
Bon, deuxième ennemi quand même.
Oui,
Bon.
deuxième et demi, mais bon, on va voir, on va lui
Mais
laisser un petit
7-8
peu de temps
matchs.
quand même.
Je dis ça parce que elle est pas de moi l'idée. J'écoutais le podcast Around the NFL, Around the League, je sais plus comment il s'appelle maintenant, qui donnait une proposition que je trouvais formidable, un troisième tour contre Andy Dalton.
Ouais, si on considère que Dalton est vraiment meilleur que Trubisky, c'est pas l'impression qu'il m'en a
Oh,
donné ce week-end. Non, mais bon, si tu
t'insultes!
veux, hein.
Ouais, mais oui, mais
Non,
non,
mais
allez,
bon,
insulte pas Andy Dalton.
Andy Dalton, on m'a toujours dit c'est un nulos en playoff, et maintenant on dit ouais,
Andy Dalton
Trubisky,
est.
il est 10 fois meilleur que Trubisky. Dalton a beaucoup de qualités, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment meilleur que Trubisky sur le long terme? J'en suis pas certain.
Alors,
Je dis pas que je dis non, mais.
Andy Dalton est au niveau de ce qui est autour de lui. Si l'équipe est bonne, il monte son niveau. Si
Ouais,
l'équipe est moins
ouais.
bonne, il est nul.
Oui, sans doute.
Donc c'est un peu mieux à Chicago qu'à Cincinnati actuellement. Il serait un peu
Bah
meilleur.
écoute, oui et non, parce qu'en l'occurrence, la défense de Chicago, est-ce qu'elle a vraiment été aussi énorme que ça par rapport aux standards qu'on
Alors,
connaît?
c'était mon autre question. La défense est moins dominante. Alors, elle souffre déjà de l'absence d'Hakeem Hicks, hein, qu'il faut souligner sur la ligne. Mais elle souffre peut-être aussi de passer 37 minutes sur le terrain au bout d'un moment.
Oui, non, non, mais bon, là-dessus, on est d'accord. Moi, je te dis pas que très clairement le fait que l'attaque soit pas performante. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure au début de l'analyse du match, ça a forcément un lien en effet avec le fait que la défense des Bears est un peu craquée. Maintenant, en phase 2, ils n'ont pas Drew Brees, ils n'ont pas Alvin Kamara, ils n'ont pas, j'ai oublié le tight end Jared Cook. Enfin, il y a aussi des absents de l'autre côté. Donc encore une fois, je veux bien que tu joues 37 minutes et que forcément tu t'épuises parce que l'attaque est pas capable de faire la différence. Mais t'as pas
Je
que
l'ai
des
dit, il y
pro
a eu.
bowlers en face de toi non plus, donc
Non,
même
je
si
suis
c'est bien
d'accord, mais
coaché de la part de Peyton, c'est à relativiser aussi.
après, c'est quand même pas la première semaine où aussi. Enfin, on l'a déjà vu même avec Jacksonville, par exemple, où tu peux avoir une très bonne défense et au bout d'un moment, quand l'attaque fout rien, la défense finit par en avoir marre, quoi.
Oui, non, mais encore une fois, je te dis, mais tout est lié, et c'est pour ça que je veux bien être sévère éventuellement sur Mitch Trubisky en disant que voilà, il a encore du mal à progresser, mais sur ce match-là, si on pose la question. Je serais quand même beaucoup plus sévère sur Matt Nagy. Je trouve qu'il a quand même été presque outcoaché d'avance avant le match
Alors,
par Sean Payton. Et ça, je trouve que c'est quand même assez problématique.
tu fais bien d'y venir, les Saints sont toujours aussi forts, toujours aussi bien coachés, ils sont à 5 victoires, 0 défaites sans Drew Brees, sans Alvin Kamara et Jared Cook sur ce match, tu l'as dit. Et en effet, Sean Payton, lui, fait du gros boulot. Teddy Bridgewater est pas flamboyant, mais il est propre. Les Saints n'ont perdu que 5 ballons cette saison, ils sont deuxième en NFL à égalité avec les Titans, c'est derrière les Cardinals. Ils font office de favoris de la NFC avec les Packers.
Oui, bah là, ici, ils se retrouvent. Donc, ils sont à combien? À 5-0, Sandro Brise, officiellement?
Oui, Sandro Brice 5-0, ouais.
Bah oui, là, très clairement, ils ont encore la possibilité, comme l'année dernière, de finir premier de la conférence nationale. Donc, oui, je pourrais. De toute façon, oui, t'as à peu près résumé. Oui, c'est vrai que Saints-Packers, actuellement, j'ai du mal à voir des équipes. Même les Niners, alors on va me taxer de hater des
Ouais,
Niners,
je
alors
sais.
que j'étais assez optimiste pour San Francisco depuis le début avant même le début de la saison. Mais je sens pas San Francisco aussi fringant que ce que peuvent l'être les Saints et les Packers depuis le début de l'année. Donc oui, gros gros favori en effet pour être au moins en bye week d'NFC au niveau des playoffs.
Jingle et tous les autres matchs de la semaine.
Hi, this is Darren Waller from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
Les autres rencontres de la semaine 7, on commence dans, j'allais dire dans la conférence AFC, mais non, parce que c'est un match intra-conférence. Seahawks 16, Ravens 30, le show Lamar Jackson, 143 yards à la passe, mais surtout 116 de plus au sol avec un nouveau touchdown. C'était lui le meilleur quarterback de ce match, même devant Russell Wilson. Tu trouves pas qu'il a fait, qu'il a battu Russell Wilson?
Alors je sais pas, j'aime bien quand tu me lances comme ça. Tu veux encore que j'énerve les fans des Ravens sur Twitter? C'est pas bien du tout.
J'aime
ça.
Bien lancer des pièges.
Mais non, alors honnêtement, ce match de Lamar Jackson, il me rappelle exactement le match qui a été gagné par les Ravens l'année passée à Kansas City. J'ai une bêtise. Chez les Chargers, le match que les Ravens ont failli gagner à Kansas City. Voilà, on va dire dans ces ambiances un petit peu hostiles, où Lamar Jackson, certes, il fait pas des énormes stats à la passe. Après, en l'occurrence, sur ce match-là, il n'est pas super bien aidé parce que, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a eu des drops de la part de son tight end Mark Andrews, qu'oublie d'ailleurs même au passage un touchdown qui aurait pu être précieux pour les Ravens pour essayer de se remettre dans le bon sens à ce moment-là. Mais en l'occurrence, je dirais, c'est plus l'intelligence de jeu que soulignerait, la faculté à vraiment réussir à prolonger les jeux et à jouer intelligemment, ne pas prendre de risques inconsidérés, justement de par le fait que l'attaque autour de lui était un petit peu moins capable de le soulager. Et en l'occurrence, il a été très très efficace au niveau du jeu au sol. Après, ses stats à la passe, ça reste quand même un peu boursouflé. Il y a un gros gain de Miles Boykin sur les 9 passes qu'il fait. Et bon, forcément, mais voilà, ça, c'est si on regarde vraiment l'aspect purement statistique. Après, très clairement, il a posé des problèmes à cette défense des Seahawks, qui sur la rencontre n'est pas non plus catastrophique si on met de côté, en effet, cette passivité sur la longue passe que j'évoquais il y a quelques secondes.
Après, ils prennent quand même quasiment 200 yards au sol dans la défense des Seahawks. Donc, on avait dit avant le match que ça se jouerait un peu là-dessus.
Après, c'est problématique de défendre sur un joueur comme Lamar Jackson. On sait qu'il reste mobile et athlétique. Oui. Donc, après, je dirais, si c'était fait ouvrir à 500 yards avec Jackson qui les ouvrait à la passe et à la course, je serais d'accord avec toi. Après, justement, c'est aussi parce qu'ils l'ont globalement bien contenu dans les airs et parce que il y a des receveurs qui avaient des mains glissantes que ils ont été un petit peu ouverts, on dira, un petit peu sujet à forcément lui laisser un peu plus de brèche au sol. Mais bon, je trouve que la défense de Seattle a pas non plus été catastrophique sur ce match-là.
Après, tu parlais de la discussion sur son niveau à la passe. C'est quand même pas la foire à la précision non plus encore.
Non, très clairement.
Faire mais tout de suite Drew Brees.
Juste si je rebondis sur ta question initiale. Après, ce qui est problématique, c'est que Russell Wilson, il a des meilleures stats, mais c'est un peu lui également qui met Seattle la tête dans le trou avec ce pick six largement évitable de Marcus Peters. On est d'accord.
Alors, il y a ça. Et moi, j'allais dire quand même, il y a un truc qui me frappe et je vais y revenir plusieurs fois, je crois, aujourd'hui, mais. J'ai l'impression quand même que quand Russell Wilson ne fait pas de miracle, Seattle se retrouve en souffrance parce que il y a quand même toujours pas vraiment d'identité offensive dans cette équipe, alors que justement Baltimore peut se reposer sur son identité, dire on va vous rentrer dans l'art, on va vous courir dessus, Lamar Jackson va pas être beau à la passe mais il va vous en mettre quelques-unes, et au moins quand ils arrivent sur le terrain, tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais à quoi t'attendre, mais ils vont essayer de le faire. Encore une fois, je disais, ils ont mis 200 yards au sol, pourtant on s'y attendait. Et Seattle est encore trop dépendant de petits miracles de Russell Wilson de temps en temps.
Bah, moi je dirais que l'identité, si tu veux, je pense que Schottenheimer essaye quand même d'en trouver une, parce que ce gros jeu au sol des Ravens, je pense que Seattle, à l'instar de ce qui a été fait l'année dernière, ils ont réessayé de remettre ça en place, et en effet d'avoir un jeu, notamment avec Chris Carson, qui était capable de soulager Russell Wilson, de lui laisser un peu plus de possibilités. Mais on en revient, je trouve, à un sujet que j'évoquais depuis quelques semaines maintenant, c'est que Russell Wilson, en effet, on le met beaucoup dans une situation où il faut absolument qu'il tente le big play. Et là, en l'occurrence, je ne dis pas que c'est forcément ça qui fait qu'il y a eu l'interception de Peters fâcheuse, mais c'est vrai que je ne suis pas complètement d'avis de me dire que Russell Wilson est mis dans les parfaites dispositions encore à l'heure actuelle par le coaching staff des Seahawks. Si on laisse de côté même la question de la ligne offensive, parce que ça c'est un vaste débat depuis des années et des années du côté des Seahawks, et là en l'occurrence je trouve qu'ils ont beaucoup souffert contre la défense des Ravens, que j'ai beaucoup critiqué depuis le début de la saison, mais qui a élevé son niveau de jeu. Et c'est vrai que voilà, là on s'est encore une fois retrouvé dans un scénario où Wilson était un petit peu obligé de se débrouiller, de se dépatouiller un peu, et c'est sûr que ça aide pas pour réussir à dominer une équipe de Seattle qui malgré tout de par notamment son head coach, reste habitué à des gros rendez-vous. N'oublie pas que c'est une équipe qui est capable de, oui. C'est une des rares équipes qui est capable d'enquiquiner et de regarder droit dans les yeux les Patriots pendant les playoffs. Donc voilà, on leur fait pas la blague, quoi, on va dire, sur ce type de confrontation. Il faut être présent du début à la fin.
Et Marcus Peters, premier joueur de l'histoire avec un pick six pour deux équipes différentes dans la même saison. Il n'a autorisé qu'une seule réception dans ce match. On a un peu oublié quand même. Quand il était chez les Rams, on s'est beaucoup focalisé sur ses erreurs, mais ça reste quand même un joueur très très décent. Colts 30, Texans 23. L'AFC Sud qui ne veut pas se décider. Je pensais que les Texans étaient équipés pour s'échapper. Évidemment, je me suis planté. Avec un très gros match de Jacoby Brissett. 26/39, 326 yards et 4 touchdowns. Encore une fois une division qui ne veut pas se décider, Greg, et des Texans qui n'arrivent pas à enchaîner deux prestations convaincantes.
Non, bon, après, du côté d'Indianapolis, là pour le coup, je trouve que dans les tranchées, on a quand même été assez dominant. On a réussi à mettre beaucoup de pression. C'est pour ça que je reste un petit peu sceptique, encore une fois, sur leur ligne offensive. Et là, je trouve que
tu parles des Texans
de Houston.
Oui, voilà.
En fait, si tu veux, Indianapolis a été bon des deux côtés et a quand même mis à l'épreuve cette ligne offensive de Houston, oui, qui restait, selon moi, encore sujette à discussion, on va dire. Et là, très clairement, il y a des jeux, notamment sur des troisièmes, où encore une fois, Matt Eberflus nous a sorti des phases où Deshaun Watson était très très souvent sous pression et était obligé de se débarrasser du ballon très très rapidement. Et ça a été assez problématique, avec des quatrièmes concédés assez vite, avec des interceptions de nouveau à la clé pour Deshaun Watson. Et bon, c'est un peu le souci actuellement du côté de Houston, c'est cette fameuse régularité qu'ils ont du mal à trouver, un jeu au sol également. Alors celui des Colts, c'est pas extraordinaire, mais celui de Houston a bien été contenu également. Et voilà, et encore une fois sur ce match-là, alors ils reviennent, on va dire, en fin de match pour semer un petit peu le doute dans l'esprit des Colts, ils ont le dernier drive pour éventuellement essayer d'égaliser. Mais sur ce match-là, il y a clairement pas deux classes d'écart. Voilà, il y a 7 points quand même, mais Indianapolis, tu disais, était assez convaincant avec un Jacoby Brissett qui a été capable de prendre à défaut cette défense de Houston, notamment parce que sa ligne offensive lui a laissé un minimum de temps.
14 touchdowns, 3 interceptions pour Jacoby Brissett, il monte dans le power ranking des quarterbacks là. On le met où à l'heure actuelle, c'est mieux. À Chicago, ils aimeraient bien avoir un quarterback comme ça.
Ouais, bon, écoute, tu vas pas me relancer là-dessus, mais non, en tout cas, allez, je vais me faire des copains en disant ça, mais je te le mettrai, allez, peut-être en milieu de peloton, entre ouais, le 15e et le 20e rang, quoi. Et, bon, il a joué que 6 matchs en tant que titulaire depuis le début de la saison, donc encore une fois, on sait qu'Indianapolis a quand même été assez bien construit depuis l'année passée pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Mais très clairement, ça confirme que Jacoby Brissett, en tout cas, les promesses qu'on avait vues en 2017, c'était pas une année comme ça pour dire bon bah je joue libéré, etc. Il y a clairement du potentiel, il le confirme dans ce début de saison.
Ouais, j'allais dire presque un peu bas, 15-20. Moi, j'ai essayé de voir qui je mettrais, parce que je l'avais mis très très bas dans le power ranking des quarterbacks que j'avais fait en début de saison. Mais aujourd'hui, tu disais, c'est pas que les matchs de cette année, hein, il avait déjà montré des choses l'année d'avant. Alors, il est presque top 15. Hein,
Ah oui, bah moi écoute, je le mets plus vers la 15e que vers la 20e place, mais ouais, je le mets clairement pas dans le top 10 en tout cas.
En tout cas, Indianapolis, c'est quand même de la grande tristesse. Alors ils ont une défense qui avait pas mal de retours, Darius Leonard pour l'interception décisive notamment, donc il y a bonne défense, tu l'as dit. Il y a ligne offensive et de la grande tristesse, et on en parlera plus, promis, après j'en parle plus, mais il leur a quand même fallu le temps de ruiner la carrière d'Andrew Luck pour trouver tous ceux dont Andrew Luck avait besoin pour aller au bout. C'est vraiment la plus grande tristesse. Cowboys 37, Eagles 10. Une équipe allait se relancer dans ce match. Ça tombe sur les Cowboys parce que les Eagles se sont désintégrés. La défense ne plaque plus. Il n'y a pas de pass rush. Carson Wentz s'est même mis à faire des erreurs aussi. 4 turnovers en tout, 0 sur 2 dans la zone rouge. Rien n'est fini dans cette division. On sait que ça peut aller très vite en NFC Est. Mais ils sont quand même très mal en point. Par où on commence à réparer du côté de Philadelphie là?
Il y a beaucoup de secteurs.
Je fais dans le cliché et je reviens à l'identité offensive ou pas?
Bah là offensivement en tout cas, on sait que défensivement il y a beaucoup de problèmes de blessures. Tu me diras c'est pas la seule franchise dans ce cas, mais en tout cas on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté des Eagles, et même Jim Schwartz avec les squads qu'il a actuellement est peut-être pas capable de faire des miracles. Après, de là à voir ce qu'on voit en termes de pass rush et d'incapacité à aller chercher le quarterback adverse, même si là encore il y a des soucis, il y a des joueurs de l'intérieur de la ligne qui sont à l'infirmerie. c'est quelque chose qui est un peu moins logique. Mais bon, cette fragilité défensive, elle a quand même un minimum d'explications. Offensivement, en effet, c'est toujours pas convaincant. Il y a un jeu au sol qui a du mal à clairement s'installer. Je ne sais pas combien de fois un running back depuis le début de la saison chez les Eagles a atteint au moins 100 yards, mais à mon avis, ça doit se compter sur un ou deux doigts, peut-être au meilleur des cas. Et en effet, tu le dis, voilà, Carson Wentz, il est un petit peu obligé de se débrouiller. Il nous fait beaucoup d'actions, on va dire, un petit peu désespérées depuis le début de l'année, à arriver à trouver les trajectoires de passe qui viennent de nulle part. Mais bon, il n'est pas non plus magicien. Et sur un match où les Eagles, très clairement, n'y étaient pas, ça commence à devenir un petit peu problématique. Et après, on en parlait un petit peu, hein, il y a quelques temps de ça, mais il y a aussi la question du caractère qu'il va falloir se poser. C'est très bien que les Eagles aient remporté le Super Bowl en 2017 d'un point de vue caractère en disant « on est outsider, on va réussir à gagner ». Sauf que on se rend compte que maintenant, quand Doug Peterson il essaie de jouer sur cette corde-là, ça ne marche pas. Il avait annoncé qu'ils allaient marcher sur Dallas la semaine dernière et au final, ils se font botter les fesses.
Alors t'es dur, il a pas dit marcher, il a dit on va y aller.
Je garantis la victoire à Dallas. Le truc à ne pas.
Non, il a pas dit garantie. Non, j'ai fait le papier. D'accord. Je te jure, il a pas dit garantie. Il a reprécisé après qu'il avait pas dit garantie. Justement, je pense qu'il avait senti qu'il avait déjà dit trop.
Bah écoute, en tout cas, je pense qu'il a dit suffisamment pour motiver Dallas et ça m'a beaucoup rappelé la situation l'année dernière du Dallas New Orleans où justement on annonçait que Dallas allait prendre cher contre l'attaque des Saints et où DeMarcus Lawrence et ses coéquipiers avaient dit vous allez voir ce que vous allez voir. Bah là en l'occurrence contre une équipe de Dallas qui était clairement pas au beau fixe, ils ont surtout regonflé l'ego adverse et ils ont remis tout le monde d'équerre, la défense, Dak Prescott, tout le monde s'est remis à l'unisson avec en plus le retour de certains tackles et ça a fait très très mal pour les Eagles.
Mais c'est là où moi je te parlais d'identité, c'est que je sais ce que c'est un bon match des Cowboys. C'est 189 yards au sol, 21 sur 27 pour Prescott, des tackles de qualité, de Marcus Lawrence qui sort du bois à nouveau, Xavier Woods qui fait un bon match en défense. Et c'est là où c'est bon d'avoir une identité, c'est que ces Cowboys, ils devaient se remettre dedans, les Eagles devaient se remettre dedans, et les Cowboys avaient un truc sur lequel se reposer, ils savaient ce qu'ils devaient faire, quoi. Mais et quand ils le font bien, ça marche.
Les Eagles, la problématique, c'est qu'ils sont censés avoir un jeu aérien assez performant. Il y a une escouade de receveurs qui... Alors, avant le début de la saison, avant les problèmes notamment de DeSean Jackson, était censé être performant, mais tu te traînes encore beaucoup de boulets des joueurs comme Nelson Agholor, comme McCollins, qui ont souvent les mains qui glissent également, et c'est sûr que ça t'aide pas à garder un certain rythme offensif, mais sur le principe, cette force aérienne, justement, elle devrait être capable de compenser l'inefficacité, on dira, d'un seul running back à vraiment avoir de l'impact au niveau du backfield offensif.
Je te donne pour terminer le résumé de Victor, notre fan des Eagles résident. Je lui prépare l'émission, je lui ai dit « Tu peux me donner un avis un peu sur les Eagles que tu as vu ?» Il m'a dit « On est nul, on est vieux, le coaching doit se remettre en cause, il n'y a pas d'immunité parce que tu as gagné il y a deux ans, l'OL la ligne offensive sous-performe, on n'a pas de receveur, on n'a pas de linebacker, on n'a pas de cornerback. » Voilà, ça vous résume à peu près tout. J'aurais juste dû dire l'avis de Victor.
Bon, après, backer-corner, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur l'attaque, je suis d'accord avec lui.
Redskins 0, 49ers 9, ça fait beaucoup de chiffres tout ça, 154 yards seulement pour les Redskins qui ont gardé longtemps le ballon avec de longs drives mais qui n'ont pas réussi à conclure. C'est difficile de tirer grand chose de ce match pour ceux qui ne l'ont pas vu. On rappellera que la pluie a transformé le terrain en piscine et a annihilé à peu près toute tentative de jeu aérien, voire même de courir dans des conditions décentes. Il y a moins de 200 yards cumulés pour les deux quarterbacks, donc c'était pas non plus encore le grand test de Jimmy Garoppolo. La défense des Niners continue son bon boulot, ça on peut le dire. Après, honnêtement, il n'y avait rien en face.
Bah, c'est un peu ça. Et puis, oui, sur ce genre de conditions, on va dire que Washington peut éventuellement se vanter d'avoir poussé San Francisco dans ses derniers retranchements. Mais c'est vrai que c'est difficile d'essayer de trouver un tant soit peu de vraies garanties. Tu gagnes à Washington, c'est déjà l'essentiel, j'ai envie de dire. Tu évites le match piège sur un terrain très très clairement piégeux. Tu provoques également des pertes de balles précieuses, hein. Je pense notamment à ce fumble en deuxième mi-temps alors que Washington est pas loin de taper aux portes de la red zone. Tu te retrouves à provoquer un fumble et à enchaîner un field goal derrière qui creuse un petit peu l'écart et qui met un petit coup sur le moral des Redskins. Après, bon, très clairement, du côté de Washington, il n'y a pas grand-chose, mais la principale nouvelle du côté de San Francisco, c'est aussi et surtout que cette ligne défensive reste efficace, et Nick Bosa, notamment, a encore été globalement excellent avec un sac décisif en fin de match.
Après, les tests, ça va venir hein, côté 49ers. La suite du calendrier, c'est Panthers, Cardinals, Seahawks, Cardinals, Packers, Ravens, Saints, Falcons, Rams, Seahawks. Donc ça, là, on va quand même être très très vite fixé dans les semaines à venir sur ce qui va se passer. Mais en effet, là, sur ce match, à part le côté piscine qui était très fun, c'est un match qui allait très très vite, 2h36 ou 37 si je dis pas de bêtises. Ça a été le premier terminé, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match aussi court.
Je pense qu'on a évité de lancer parce qu'en plus, il y a une ou deux interceptions en cumulé.
Il y en a une de Garoppolo, je crois, ouais, de mémoire. Et oui, non, il y en a, mais c'est trois field goals sur les 9 points. Donc il y a une interception de Garoppolo, c'est ça. Il y a un fumble d'Adrian Peterson de mémoire, mais qui avait parfois du mal à tenir le ballon dans le dôme de Minnesota. Alors là, imaginez avec toute la pluie. Falcons 10, Rams 37. Dan Quinn est toujours là. Comment on le sait? Et ben, ils ont pris 37 points et ils n'ont pas rendu grand chose. Pierre Matt Ryan s'est blessé à la cheville, il est incertain pour le prochain match. Alors apparemment, c'est pas trop grave. Des field goals manqués, c'est la débandade. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que les semaines précédentes, Grégory? Pour de vrai, je ne sais pas s'il y a grand chose de plus.
La bonne nouvelle, c'est que Mohamed Sanou est parti, donc lui va pouvoir profiter d'autres choses.
Ah oui. C'est ça, Mohamed Sanou transféré aux Patriots quelques heures avant cette émission.
Pour un deuxième tour de draft, ça je l'avais pas vu venir, mais bon, ça c'est une petite
parenthèse. Oui, il récupère bien par contre.
Oui, pour un joueur qui a de fortes chances d'être cuté de par son contrat assez lourd à la fin de la saison, c'est pas une mauvaise chose. Après, ça reste un bon joueur, mais je pense qu'il y a de quoi faire au poste de receveur. Pour le reste, oui, non, t'as tout dit. C'est... Là, je pense qu'on essaie de pousser les limites du ridicule. Parce que là, quand on voit les équipes spéciales avec le touchdown qu'ils prennent en fin de match sur ce fumble grotesque de Russell Gage, quand tu vois le fake punt avec Aker qui se met limite en position derrière le centre pour bien faire comprendre qu'il va passer le ballon et qu'il n'y a aucun défenseur qui percute le jeu, quand tu vois que Devonta Freeman, qui est quand même pas le plus nerveux qui soit, il se retrouve à essayer de mettre des droites à Aaron Donald, la ligne offensive qui prend le bouillon de bout en bout au point de blesser Matt Ryan. Je veux dire, tout va bien du côté d'Atlanta, toujours pas de sac au compteur, pire équipe en termes de sac depuis le début de la saison.
Ouais.
On essaye de dégager Vic Beasley, personne n'en veut. Étonnant, mais non, mais honnêtement, je ne comprends pas cette obstination de la part d'Arthur Blank à vouloir absolument laisser des jokers à Dan Quinn. Je veux bien qu'il y ait la bye week la semaine prochaine. Mais déjà, à 1-6, tu pars pas sur des très très bonnes bases. Je suis pas sûr que le fait d'être à 1-7 parce que tu t'apprêtes à recevoir Seattle, ce soit forcément encore plus enviable pour celui qui est amené à succéder à Dan Quinn. Donc, bon, écoute, apparemment, on a fait un trait définitivement sur cette saison 2019. Et il faudra voir la suite. Mais en tout cas, victoire opportuniste des Rams.
J'aurais bien dit que Dan Quinn, peut-être que c'est un optimiste et qu'il table encore sur les playoffs parce qu'il a vu, grâce au Super Bowl, que tout était encore possible jusqu'au bout.
Ouais. Le pire dans cette histoire, c'est que le jeu au sol est quand même globalement bien contenu, mais que de toute façon, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec Chicago et Trubisky. Je veux dire, de toute façon, si l'attaque n'arrive pas à performer parce que la ligne offensive est nulle et que le jeu au sol est inefficace, je veux dire, la défense, elle tient le coup. Le score, il est de combien? Il est de 10-3, 13-3 à la mi-temps. Enfin, l'écart n'est pas énorme. Mm. Et ils prennent le bouillon en fin de match parce que la défense, c'est sur les rotules. Déjà qu'elle n'est pas extraordinaire et qu'elle ne crée pas de turnover. Ça devient un petit peu compliqué quand tu joues une équipe dont la spécialité reste l'attaque.
Oui. Todd Gurley n'a gagné que 41 yards. Je suis en train de regarder un peu de jeu au sol des deux côtés, c'était pas faux.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lichon, bon, 38 yards pour Atlanta. Début réussi pour Jalen Ramsey, un fumble forcé, un beau duel avec Julio Jones. Ça aide quand même une défense des Rams, hein, quand tu rajoutes de la qualité en couverture, ça aide aussi le front.
Il y a un excellent Dante Fowler également sur le sac. Mais oui, je te rejoins, c'est sûr que Jalen Ramsey a été pris une fois à défaut par Julio Jones. Sinon, globalement, il aura une bonne copie pour ses débuts avec Los Angeles. C'est de bonne augure pour la suite.
Giants 21, Cardinals 27, troisième victoire de suite pour les Cardinals. Alors, ils ont tapé Bengals, Falcons et Giants, ça fait trois victoires en cumulé en face. Mais je trouve ça quand même significatif au sens où ils sortent clairement de ce fond de la ligue. Ils sont plus parmi les tréfonds, non?
Oui, non mais ça fait du bien pour la confiance. Là en plus, surtout, c'est pas Kyler Murray qui a dû encore une fois sortir la cape de super-héros pour on va dire sortir les cartes du bourbier. Il y a un jeu au sol qui a été hyper performant avec Chase Edmonds qui marche sur la défense des Giants dès le début du match. Je crois qu'il marque.
Il y a un mec quelque part dans le monde qui l'avait dans sa fantaisie et qui a gagné.
C'est ça. Mais ce qui est encore, alors, là, pour le coup, c'est ce qui est encore plus inquiétant pour les Giants, c'est qu'à la limite, que Chase Edmonds prenne le relais de David Johnson, c'est pas infamant en soi. On a vu que ces dernières semaines, il y avait de bonnes sorties, des touchdowns de sa part. Mais c'est vrai que voir l'aisance avec laquelle il a réussi à marquer ses touchdowns, pour une équipe qui se targuait la semaine dernière d'avoir contenu Brady, Mitchell et compagnie, très franchement, défensivement, tout n'a pas l'air d'être encore au beau fixe du côté de Jim Betcher. Non. Et puis la ligne offensive qui a pris le bouillon avec Chandler Jones, qui, il me semble, fait 4 sacks sur ce match-là. Donc,
4.
Donc ouais, non, du côté d'Arizona, on a clairement profité de la faiblesse adverse avec un Saquon Barkley qu'on a relancé mais qui est clairement pas à 100% et un Daniel Jones qui pour l'instant reste un rookie et donc il faut pas attendre forcément des miracles. Donc victoire opportuniste pour Arizona et en effet ça leur fait du bien pour revenir à une fiche égale.
Mais tu vois, c'est là où moi je trouve que c'est bien du côté d'Arizona, c'est qu'ils n'ont perdu que 4 ballons cette saison, c'est la meilleure équipe en NFL là-dessus et ça c'est quand même énorme pour une équipe si jeune,
surtout
avec un Kyler Murray aux commandes.
C'est ça, avec un quarterback qui est habitué à jouer hyper aérien et hyper agressif. Alors après, on l'avait dit que je pense que Kingsbury, là-dessus, on en parle un petit peu, mais c'est vrai qu'il marche sur des œufs en voulant peut-être pas trop exposer son quarterback et des fois, il joue peut-être un petit peu petit bras. Mais en effet, c'est peut-être aussi le côté à pas vouloir griller son joueur tout de suite et à justement essayer de minimiser les erreurs. Et déjà, si les Cardinals arrivent à le faire et de manière efficace, c'est une très bonne chose pour l'instant.
Et la différence avec Daniel Jones, elle est là. Hein. Jones, c'est 7 interceptions, 5 fumbles. Donc, il a perdu déjà plus... Il a plus d'interceptions que de ballons perdus, les Cardinals, sur toute l'année, tous ensemble. Donc, il y a ça qui joue. Moi, encore une fois, je m'étais un peu hypé sur les Cardinals au début d'année. Je trouve qu'il y a vraiment des choses. Après, ils vont retomber un peu sur terre quand il y aura des équipes un peu plus costauds en face.
Quand ils vont en jouer deux fois les Rams et deux fois les Niners, oui, ça peut éventuellement
voilà,
se compliquer.
Mais il y a Chandler Jones qui est quand même un super défenseur dont on parle trop peu parce qu'il est enterré en Arizona. Il y a Patrick Peterson qui est revenu, il y a Terrell Suggs qui joue avec. Enfin, il y a des petites choses que j'aime bien moi, dans cette équipe. Et s'ils sont propres comme ça et Kingsbury se débrouille bien, comme tu disais, à un peu zigzaguer et à marcher un peu sur une corde reine, mais pour réussir à préserver Murray et à faire des choses, je trouve ça vraiment pas mal et je suis de plus en plus convaincu. Jets 0, Patriots 33, c'était le massacre du Monday Night, un fumble pour Sanders. Des 4 interceptions, un safety poussé à l'arrière de la end zone, massacre défensif de New England qui a marqué sur son premier drive, qui a marqué ensuite un field goal et 2 touchdowns, je crois, sur les suivants, si je ne dis pas de bêtises. En bref, c'était vite plié, match à oublier. Alors, les Jets ne sont pas si horribles que ça, mais évidemment, c'était un peu la panique là, sur la ligne offensive et sur tout le reste.
Ouais, j'ai du mal à savoir quoi te dire sur ce match-là, tant il y a eu quand même une petite classe d'écart.
Bah c'est dur. Hein.
Non, bah surtout que ça intervient après un match des Jets où on avait clairement vu un sursaut d'orgueil face à Dallas à la maison. Bon, là, en prime time, sur un match en Monday Night, le soufflet est quand même un peu retombé, quoi. Alors, c'est sûr que Sam Darnold, il n'est pas magicien non plus. S'il n'y a rien autour de lui, en plus contre une défense de New England qui est vraiment hyper opportuniste et qui crée turnover sur turnover depuis le début de la saison, ça devient rapidement de la chair à canon. Mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Et de toute façon, même Adam Gase l'a reconnu lui-même que, en termes de motif de satisfaction sur ce match-là, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Donc, New England gagne en confiance, encore une fois, surtout grâce à leur défense. Ouais. Mais de toute façon, comme l'année dernière, on ne va pas non plus demander à Brady de lancer 300 yards en attaque. Donc, voilà, pour l'instant, ça passe. Ils s'économisent en vue de janvier, comme ils le font assez souvent ces dernières saisons. Donc, voilà, que ça continue comme ça de leur côté. Et puis, bon, les Jets, on attend la saison prochaine maintenant pour récupérer les blessés et reconstruire au niveau de la ligne.
Le soufflet, il est retombé, il est en négatif là, il s'est écroulé à l'intérieur. Oui, non, mais il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match. Les Patriots qui continuent en magazine de la confiance. Après, ils ont fait le taf offensivement sur le début de match. Il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus, donc on verra sur les rencontres suivantes. Mais c'est quali. Un mot sur l'ajout de Mohamed Sanou, c'est peut-être ça la plus grosse information d'ailleurs de la nuit. Dans la foulée de ce match, ils font venir Mohamed Sanou. Josh Gordon est un peu blessé ces derniers temps.
Ouais, il est blessé, même si je trouve que l'intégration du rookie Jacoby Myers, c'est assez intéressante du côté des Pats. Alors, je ne sais pas s'il jouait sur ce match-là, j'avoue que ça m'a échappé, mais il me semble que Enkilari revenait. Mais je ne crois pas qu'il...
Mais en plus, c'est ça, il y a Harry qui revenait aussi. Donc, il y a avaient du matos. Enfin, il y a pire ailleurs. Après, on est clairement. Enfin, moi, ça me choque pas. Ils sont toujours maintenant dans cette stratégie de dire on donne le maximum de matos à Brady parce qu'il peut gagner maintenant.
Non, et puis,
on gagne maintenant.
Non, et puis ce qui est bien avec Sanu, pour le coup, alors je le disais, c'est sûr que d'un point de vue contractuel, on dira gestion du roster, c'est pas forcément une mauvaise opération pour Atlanta. Maintenant, ce qui est une bonne chose pour New England, c'est qu'il récupère un joueur qui a du caractère, qui est grand, qui a de la vitesse, qui peut également être polyvalent en jouant sur des formations un peu wildcat ou jet sweep. Enfin, il a un répertoire qui est quand même assez varié en attaque, et c'est un joueur qui peut être assez précieux en effet entre les mains de Josh McDaniels. Donc oui, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Je le disais, moi, ce qui me fait un peu plus sursauter, c'est le deuxième tour de draft, mais si New England était vraiment amoureux du joueur, puisqu'apparemment il le suivait depuis quelques mois, pourquoi pas.
Un receveur qui peut lancer des passes, tu te doutes que New England est amoureux. Jacoby Myers, c'est 5 réceptions, 47 yards sur ce match, donc il était bien là. Bills 31, Dolphins 21, Miami est pas loin, deux ballons perdus en début de deuxième mi-temps qui font mal, mais Ryan Fitzpatrick a 282 yards contre la défense des Bills, ce qui est quand même plutôt honorable. Les Bills qui gagnent avec moins de yards, 7 first down de moins, moins de réussite sur troisième tentative, moins de temps de possession, mais... Eh ben, ils perdent pas de ballon et Allen est bon sur le drive pour repasser devant dans le troisième quart, donc ça suffit. Ça gagne moche, mais ça gagne encore.
Bah, c'est ça, on parle beaucoup depuis le début de l'émission d'équipes qui ont du mal à finir les rencontres. Buffalo, en l'occurrence, ils arrivent à les terminer. Donc c'est pas une mauvaise chose. Je disais, même contre New England, ils sont en position pour éventuellement jouer la série de la victoire. Alors après, ils n'ont pas non plus tapé jusqu'à la zone rouge, mais en tout cas, ils sont maintenus en position pour le faire jusqu'au bout. Et là, sur ce match-là, ils ont longtemps été bousculés par Miami et par Ryan Fitzpatrick. Et je parlais du tournant tout à l'heure avec cette perte de balle de Derek Carr en position goal line. Le tournant du match, très clairement pour Buffalo, c'est cette interception de Tre'Davious White qui permet derrière aux Bills de repasser devant et de semer, on va dire, le doute dans l'esprit des Dolphins. Et bon, bah après voilà, il faut pas grand chose non plus pour faire tanguer un petit peu le bateau Miami. On a en vue en plus qu'ils perdent leur defensive tackle rookie Christian Wilkins assez bêtement en début de rencontre. Donc voilà, je pense qu'au niveau la défense, je pense, a un petit peu craqué également au fur et à mesure. Et voilà, et bon, on va se répéter avec Buffalo, mais sans être extraordinaire, ça fait le boulot en marquant 31 points, ce qui n'est pas forcément hyper attendu. Et ça, c'est à 5-1, ça restera en course pendant un petit moment, je pense, pour au moins les wildcards AFC.
Et à Miami, ils sont en galère parce que s'ils veulent remettre Josh Rosen, maintenant on va voir qui tanque, quoi. Parce que Ryan Fitzpatrick joue clairement mieux avec cette attaque.
Sur ce match-là, en tout cas, il était meilleur. Après, il y a d'autres sorties où je ne l'ai pas trouvé hyper emballant, mais en tout cas, contre cette défense de Buffalo, contre cette franchise qu'il connaît bien, même s'il n'y a pas forcément
oui,
que
aussi,
des défenseurs qu'il connaît. Mais en tout cas, bon, on sentait qu'il était relativement à l'aise du côté du stade de Buffalo, mais ouais, je ne sais pas trop. De toute façon, Miami, voilà, il y a un match peut-être où il y aura éventuellement un malentendu et où ils pourront finir à 1-15 comme en 2007. Mais très franchement, tirer beaucoup d'enseignements de cette équipe, c'est compliqué.
Pour les Bills, en tout cas, ça pourrait continuer parce que le calendrier, il est pas foufou hein, derrière. Il y a Eagles, Redskins, Browns, Dolphins, Broncos. Ça devrait enchaîner.
On est d'accord.
Il y a une route vers les
playoffs. Ça peut monter au moins à 8-2, je te rejoins.
Les Titans 23, Chargers 20. Les Chargers sont fait très très fort pour perdre ce match. Alors là, ils continuent vraiment à faire très très fort. Ils ont buté aux portes de la end zone plusieurs fois avant que Melvin Gordon ne perde un fumble. La grande question étant, alors je m'étais préparé à faire cette émission avec Raoul à la base, mais quand même, je te la pose aussi. Que fait le ballon dans les mains de Melvin Gordon? 16 courses, 32 yards, 2 yards par course, déjà un fumble. Pourquoi Melvin Gordon a ce ballon?
Parce que Ken Winston-Hunt ne sait pas gérer les possessions en zone rouge depuis le début de la saison. Ça commence à devenir un petit peu flagrant et c'est pas la première fois. Je l'avais déjà souligné contre Denver. Là, c'était de nouveau problématique à Tennessee. Et pourquoi? Parce que là aussi, on parlait de Kingsbury qui marche sur des œufs. Je pense qu'Anthony Lynn, il est un petit peu dans cet état d'esprit aussi. C'est-à-dire qu'il y a un running back qui lui casse les bonbons pour avoir un gros contrat et qu'à un moment donné, on est bien obligé de lui donner des responsabilités en lui disant « Si tu veux ton gros contrat, montre-nous de quoi t'es capable. » Sauf que Melvin Gordon, ouais, en termes de sécurité de ballon, alors ça a longtemps été son problème en début de carrière, ça s'est un petit peu calmé à ce niveau-là, mais bon, c'est pas non plus le meilleur running back en termes de sécurité de ballon. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, ça s'est payé cash de la part des Chargers. Et bon, même le jeu au sol en règle générale n'a pas été hyper performant parce que Eclair a été efficace en sortie de backfield, mais au niveau du jeu au sol, on a retrouvé le bon run stop de Tennessee. Et...
Ouais, 5 ballons, 7 yards pour Eckler
voilà. Et ça fait quand même beaucoup de matchs où les Chargers ne sont pas non plus largués, mais où ils se retrouvent à perdre des matchs qu'ils ne doivent pas forcément perdre. Un match en
alors,
plus où ils...
Puis-je...
Vas-y, vas-y.
Puis-je suggérer que dans ces cas-là, tu utilises ton quarterback borderline Hall of Fame?
Alors, t'es taquin. Maintenant, je ne suis pas plus rassuré par Philip Rivers depuis le début de la saison, hein, même si là, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais bon. Niveau entourage, on dira offensif, on repassera. Hein. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas forcément toutes les pièces qui vont avec, mais très clairement, il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe des Chargers. Défensivement, il y a des blessures. Offensivement, même si la O-line n'est pas bonne, tu dois quand même proposer mieux que ce que tu proposes à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de failles mentales qui font que cette équipe est à 2-5, alors qu'elle devrait au moins, à mon avis, être éventuellement à 4-3 et pouvoir prétendre au playoff AFC. Et pour l'instant, on en est assez loin.
J'ai l'impression que les Chargers, c'est la même chose depuis 12 ans. C'était quand la fois où Rivers va en playoff, se fait les croisés, gagne malgré les croisés, etc. Enfin bref, j'ai l'impression que les coachs changent, mais que c'est toujours les mêmes cycles, c'est-à-dire on a des espoirs, on va en playoff, on a l'impression qu'on est blindé, on retombe, on a des espoirs, on a l'impression qu'on va en playoff, on est blindé,
certains,
on retombe, on a des espoirs.
Certains te diront que... Mais j'ai vu en plus, j'ai revu l'interview de Tomlinson qui est passé il y a quelques jours, certains te diront que le mauvais virage, il dure depuis le départ de Marty Schottenheimer au milieu des années 2000, après la fiche de 14-2 de San Diego.
Oui,
il y a des choix qui restent curieux du côté de Los Angeles. Maintenant, ce qui est curieux, encore une fois, et c'est là où je pointerai vraiment le coaching staff, c'est que le groupe, malgré les problèmes de blessures, il reste de qualité. Donc, de 5,
c'est
pas
ce
normal.
Que je dis, c'est qu'à chaque fois, on a des espoirs. On a un groupe dont on dit « Ah tiens, il a un peu atteint les playoffs là. Maintenant, ils doivent faire des grandes choses. Ils ont un bon groupe, ils sont un bon groupe. » Et puis, on est déçu. Et puis, on dit « On reconstruit un peu. Ah, hop, ça tape un peu les playoffs. Ah, ils ont un bon groupe, ils ont un bon groupe. » Et puis, ils n'y arrivent
pas. Surtout
que
tu vas sans doute y venir, mais... Ce qui est d'autant plus problématique, et là encore, blessure ou pas blessure, c'est que tu fais passer Ryan Tannehill pour un pro bowler, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Alors, j'allais juste préciser quand même qu'ils ont 5 ballons perdus, les Chargers, en situation de goal-to-go cette année, pour revenir sur le fumble. Et Ryan Tannehill, en effet, est à plus de 300 yards. Ils ont 402 yards en attaque, les Titans. 90 pour Derrick Henry. Donc, ça a l'air de continuer pour Ryan Tannehill. On a eu le débat sur Mariota la semaine dernière. Bon, au moins, c'est vrai que Ryan Tannehill, alors je ne sais pas s'il est passé pour un pro bowler, mais il a fait le boulot.
Oui, bah en tout cas, je pense qu'il a dit à Marcus Mariota, t'as l'air d'avoir bonne allure sur le banc de touche. Parce que je doute que Mike Vrabel se décide à remettre Mariota en tant que titulaire après la sortie de Tannehill, qui même avec un temps soit peu de déchets, a été beaucoup plus convaincant que ce qu'a pu être Mariota depuis le début de la saison, même si on me dira qu'il y a eu les bonnes prestations contre Cleveland et Atlanta.
Et pour terminer, une fois n'est pas coutume, parlons un peu de défense, parce qu'on parle souvent des quarterbacks et tout ça, mais Jeffrey Simmons... que t'aimais beaucoup, je crois, avant la draft, qui fait ses débuts dans ce match. Il s'était fait les croisés en février. Il est déjà là. Il claque un sac et deux plaquages pour perdre et un quarterback hit pour son début de carrière. Ça sent plutôt bon, ça, non?
Oui, bah en tout cas, ça prouve que les Titans ont eu raison de miser, parce qu'on rappelle, c'était un premier tour de draft. Hein. Il y a des équipes qui se sont risquées sur des joueurs blessés. Je pense à Jalen Smith à l'époque à Dallas, mais qui était un deuxième tour. La Tennessee, ils n'ont pas hésité avec leur 19e choix à dire, bon, bah voilà, c'est un joueur, ça va peut-être prendre du temps, mais en tout cas, on est prêt à être patient pour récupérer vraiment son plein potentiel, surtout sur une ligne défensive où à Tennessee, en dehors de Jarrell Casey, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier. Donc là, en l'occurrence, avoir son aide sur le premier rideau, ça a été assez précieux, même si, on dirait que je relativise toujours un peu, mais voilà, il faudra peut-être attendre un autre test que la O-line des Chargers pour se faire une idée plus précise du talent du joueur.
Ouais, mais bon, pour des débuts en NFL, moi, je me permets d'être enthousiaste. Quand on voit que certains, justement, linemen du premier tour qui étaient en bonne santé ont plus de mal...
Oui, c'est clair, c'est clair. Mais cette défense de Tennessee, elle a quand même... Il y a quand même des joueurs, encore une fois, bon, Kevin Byard, c'est une valeur sûre, même Rashaan Evans a l'air de vraiment progresser sur sa deuxième saison, donc c'est offensivement qu'il faut réussir à trouver la carburation du côté de Tennessee, parce qu'en défense, il y a de quoi faire.
Bengals 17, Jaguars 27, à l'usure, les Jaguars ont fini par marcher sur Cincinnati, 216 yards à la course, au sol, c'est hallucinant, je ne me remets pas de cette statistique, Grégory. Depuis le début de la saison, les Bengals ont 372 yards gagnés, 1323 yards encaissés, il y a un delta de quasiment 1000 yards au sol. Je sais qu'ils n'ont pas de ligne, mais le chiffre est délirant. Au sol, sur ce match, il y a 2 yards pour Joe Mixon en 10 courses. Donc, je ne sais pas en centimètres si tu fais la moyenne de combien il a avancé par course, mais c'est délirant. C'est un truc de fou. Au sol, enfin, sur toutes les lignes, ils se font démonter. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se font démonter sur les lignes depuis le début de l'année.
Bah, écoute, on a recruté Zach Taylor pour développer le jeu aérien.
Oui, bah oui.
Donc, manifestement, il n'y a pas de jeu au sol, écoute. Non, mais bon, je suis taquin, mais ça, après, bon, Zach Taylor, c'est un autre problème en soi, mais c'est vrai que très clairement, tu peux pas. Pour le coup, on sait que Miami, c'est pour d'autres raisons qu'ils n'ont toujours pas de victoire. Là, c'est clair que sur Andy Dalton, alors c'est sûr que je suis un peu sévère parce que forcément, après, il doit prendre beaucoup de risques dans le quatrième quart. Et là, pour le coup, en fin de match, ça a quand même coûté très très cher à Cincinnati contre une défense des Jacks qui, enfin, est opportuniste en termes de turnover. Mais c'est sûr que tu peux pas avoir comme meilleur running back sur ce match-là Andy Dalton à 33 yards, quoi. C'est pas possible. Et encore moins, comme tu disais, un Joe Mixon à un cinquième d'un yard sur l'ensemble de la rencontre. Pour un joueur qui était à 1000 yards la saison passée, c'est pas possible. Je veux dire, même avec quelques vétérans que tu signes avec pour une poignée de figues, je veux dire, normalement, t'es censé avoir un run block un minimum plus performant que ce que t'as actuellement du côté de Cincinnati, quoi.
Après, on parle de NFL. Hein. C'est une poignée
non, mais
de figues.
On est d'accord, mais bon, je veux dire. Je veux dire, aujourd'hui, tu donnes à 5 vétérans un contrat minimum. Je pense que t'as quand même de quoi. Surtout qu'il y a eu des investissements, on l'a dit, sur cette ligne offensive avec certains joueurs qui étaient un peu what the fuck. Je veux dire, voilà, à un moment donné, t'es aussi censé avoir un petit peu plus que ce que t'as actuellement. Alors, certes, tu joues Jacksonville cette semaine. Mais bon, tu le disais, c'est une statistique qui revient assez souvent quand même depuis le début de la saison. Donc, c'est un petit peu inquiétant, ouais.
Non mais en NFL tu les payes avec des figues en or. C'est d'ailleurs, est-ce qu'il est temps de libérer Andy Dalton? Je l'ai déjà dit, envoyé au Berne. Moi c'est l'affaire de la trade deadline que j'aimerais bien voir bouger. Alors il y a pas beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un quarterback dans les faits, mais j'ai envie de dire, si tu crois pas, libère Andy Dalton, donne-lui une chance dans une meilleure attaque. Et ça me plaît.
Écoute, moi je veux bien entendre ton cri du cœur, mais je suis pas sûr qu'en NFL le fait d'être philanthrope ce soit vraiment dans les coutumes locales. Je pense que si Cincinnati, puisque là ils ont l'air quand même de prendre la bonne direction, s'ils font premier ou deuxième choix de la prochaine draft, il y aura de fortes chances qu'ils prennent un quarterback et qu'ils essaient de le développer au moins derrière Dalton. Après.
Alors moi ma logique c'était de dire, si vraiment il y a une bonne offre, tu lâches Andy Dalton, sachant que 2020 c'est sa dernière année de contrat et que a priori tu vas sélectionner un quarterback à la draft, il y a une fin de cycle quelque part. Donc voilà, c'est s'il y a une bonne offre en tout cas.
Oui, mais il faut que l'offre soit vraiment significative, quoi. Après la draft d'un quarterback, si encore une fois on prend cette direction-là, parce que là je présage un petit peu, on n'est même pas à la mi-saison. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils vont s'en débarrasser tout de suite. Déjà, ce qui serait bien aussi, même si ça gommera pas tous les maux et notamment les problèmes au niveau du jeu au sol, peut-être au moins attendre le retour des Jay Green et pourquoi pas du tackle Jonah Williams pour vraiment avoir une idée très concrète de ce que tu as d'un point de vue potentiel sans les blessures un peu fâcheuses, quoi.
Après, quand on voit que Mohamed Sanou vaut un deuxième tour, que Duke Johnson vaut un troisième, moi je suis plus sûr de rien pour Andy Dalton. Les Jaguars, c'était leur premier touchdown offensif depuis la semaine 5, ils sont quand même toujours à 1-6 dans la zone rouge, donc ça pourrait être un truc à régler. Ça a surtout été au sol parce qu'ils profitent de la ligne, mais Minshew, c'était pas la folie, 15-32, 255 yards, un touchdown. Donc pour l'instant, ils profitent quand même bien d'une équipe des Bengals qu'il fallait désosser, quoi.
Oui, c'est ça. Après, je me répète un peu depuis le début de la saison à son sujet, mais c'est vrai que Minshew, c'est un joueur qui, sans être impressionnant dans le jeu, tu sens que, on va dire, mentalement, il est capable, sur une fin de match un petit peu fofolle, de vraiment réussir à sortir le drive qui peut te permettre de faire la différence. Donc là, pour le coup, c'est sa défense qui a sorti le bleu de chauffe pour créer les turnovers et réussir à faire la différence, notamment avec ce fumble recouvert en touchdown par Ngakoue. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup... Il dégage pas une assurance pleine du début à la fin, mais bon, si Jacksonville reste dans le coup jusqu'au bout, il y a quand même une opportunité pour rester au contact et pourquoi pas potentiellement se battre pour les places de wildcard AFC. Je me répète un petit peu, mais ils en font partie.
Broncos 6, Chiefs 30, je suis pas mal revenu dessus dans le fauteuil, donc je vais vous référer à ça. Un petit mot quand même sur le fait de ce match, Grégory, blessure de Patrick Mahomes, a priori 3 semaines d'absence. Est-ce que tu crois en Matt Moore pour affronter les Packers, Vikings et Titans?
Packers, Vikings, Titans. Bah écoute, alors moi j'ai toujours bien aimé Matt Moore, même quand il était à Miami, c'était un petit quarterback backup qui paye pas de mine, mais qui est quand même assez solide globalement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un calendrier qui s'annonce pas simple. Hein. Pour les Chiefs, ils sont à 5-2, donc ils ont une petite avance sur la concurrence dans leur division.
C'est ce que j'allais te dire. La division est faible. Hein. Enfin, au niveau des victoires derrière, les Raiders sont perdus, les Chargers sont perdus, les Broncos ont perdu contre eux.
Ouais, mais ça peut aller vite quand même. Hein. Tu perds. Admettons. Hein, encore une fois, j'exagère, je grossis un petit peu le trait parce que on sait jamais. C'est des matchs qui vont être préparés. C'est un peu comme les Saints sans Drew Brees. Hein. Après, il y a de la préparation et on voit la gestion du coaching staff. Mais tu perds à domicile contre Green Bay et Minnesota sans Patrick Mahomes. C'est ce que c'est vraiment un scandale en soi.
Non, mais je pense qu'ils en arrachent un des trois. Pire scénario, il y a une équipe qui revient un peu sur eux, ils récupèrent Mahomes, ils refont un éclat, ils repassent devant.
À voir. Parce que Tennessee, c'est une équipe chiante, hein. On le dit souvent, c'est une équipe qui est capable de sublimer également sur des matchs, en plus à domicile. Attention.
Non, mais c'est une équipe un peu un match sur deux. Donc, moi, je crois en Andy Reid qui peut faire le taf avec Matt Moore. Quoi.
Ah, moi, c'est ce que je pense également. Mais là, en l'occurrence, sur ce match-là, Matt Moore a fait sa partie. Parce qu'en l'occurrence, quand Mahomes sort, il y a 10 à 6, il me semble, pour Kansas City. Et il arrive quand même à permettre aux Chiefs de creuser. Mais il a aussi compté sur une défense. Voilà. Plus sur la ligne offensive de Denver, qui a été absolument catastrophique, avec encore une fois un Garrett Bowles qui, sur le poste de tackle, est nullissime. Mais voir le niveau de la défense de Kansas City sur ce match-là, ça a presque été une aubaine pour lui. Je ne sais pas si la défense des Chiefs arrivera à être à ce niveau-là toutes les semaines. Et c'est là-dessus où je m'interroge un petit peu du côté de Kansas City. Après, voilà, je ne te dis pas que Andy Reid est un bleu bit et qu'il se fera absolument avoir par tout ce qu'ont tenté les Packers, les Vikings et les Titans au cours des prochaines semaines.
C'est l'heure du répondeur. Je savais plus ce que je disais. Excusez-moi, je regardais ailleurs. C'est l'heure du répondeur. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo yo yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. Ici Arthur Blanc de Atlanta. Je souhaiterais appeler Grégory Richard pour qu'il puisse venir restructurer sa franchise préférée. Accepte-t-il cette mission? Il a 10 secondes pour accepter. Merci, merci.
Salut l'équipe! C'est quand même fou la NFL. Hein. Vous imaginez les Chiefs qui perdent Mahomes en espérant qu'ils reviennent vite. Il y a les Niners 6-0 qui l'auraient parié en début de saison. Il y a les Colts qui arrivent à performer sans Luck. Ça aussi, on ne l'aurait pas parié en fin de saison. Et les Saints, même chose, sans Drew Brees qui aurait donné cher du petit Teddy. Et puis les Eagles qui étaient imbattables l'année dernière, tout comme les Falcons. Et là, qui se prennent des tôles toutes les semaines. C'est vraiment le meilleur sport au monde. Vive le foot américain! Puis en fait, il y a une seule chose qui change pas, et je pense qu'il changera jamais, c'est les Chargers, sur lesquels il faut jamais, au grand jamais, parier. Ils m'ont fait perdre un énorme combiné.
Michel, pour Tazian Actu, on s'en prenait à Monsieur Mattei par rapport au commentaire qu'il avait fait sur Rivers. Ce soir, on est bien d'accord que Rivers joue aux fléchettes. Il vise pas les joueurs, il vise un point sur le terrain, on est bien d'accord.
Merci à tous pour vos réactions sur le répondeur. Je me permets une petite précision, quand vous laissez des messages, essayez de faire moins de 45-50 secondes dans les faits, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message de 4 minutes, c'est un peu compliqué à diffuser, je vous l'avoue. Alors c'était pour débriefer c'était pour débriefer la situation des Dolphins, et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais 4 minutes on peut pas diffuser là, c'est un peu trop long, donc essayez de réduire quand même un petit peu. Merci en tout cas à vous, c'est toujours un plaisir d'écouter tous vos messages. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Grégory, c'est l'heure de ton top.
Écoute, mon top, ça me fait mal à la bouche de dire ça, mais bon, les Saints à 5-0 contre Drew Brees, sans Drew Brees, pardon.
Sans Drew Brees,
sans Drew Brees et sans quand même une partie du casting, parce qu'Alvin Kamara également, au niveau du jeu offensif, faut réussir à faire 100. Et là, pour le coup, c'est quand même extrêmement solide dans de nombreux secteurs. Donc voilà, il faudra surveiller les Saints jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, un top de leur part, très clairement. C'est très bien coaché par Sean Payton, donc c'est de bon augure pour la suite.
Bon, moi j'ai de l'amour dans tous les sens. J'ai trois petites mentions et un gros top. Je commence par les petites mentions. J'ai surkiffé la pluie parce que je trouve ça super rigolo de voir les mecs. Alors, à petite dose, hein, j'ai pas envie que le Super Bowl se joue là-dedans, mais c'est rigolo pour un match comme ça de les voir patauger et que ça éclabousse de partout. Ça donne des super photos. La course de touchdown de Ryan Fitzpatrick en fin de match qui est quand même incroyable avec ce taquet là qu'il va mettre. Il baisse l'épaule et tu sens. Enfin. Ryan Fitzpatrick, c'est un dingue, quoi. Il y a ce truc qui est magique quand même avec lui, c'est qu'il va chercher ce genre d'action. Kirk Cousins qui joue très très fort aussi en ce moment, donc ça c'était les trois mini. Mais mon vrai top de la semaine, c'est quand même la haine des Shanahan pour les Redskins, qui est quand même assez impressionnante et qui m'a éclaté. C'est-à-dire que pendant la semaine, Kyle Shanahan, donc coach actuel des 49ers, dit, on lui demande donc ce qu'il a pensé, ce dont il se souvient de son passage aux Redskins, etc. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui était bien ? Travailler avec mon père. Qu'est-ce qui était pas bien ? Tout le reste. Ok, ça situe le truc. Ça situe le truc. Et il va gagner à Washington et dans le vestiaire des Redskins, quand il doit donner le ballon du match, il le donne pas à un joueur, il le donne pas à un coach, il le donne à son père qui était là, quoi. Donc il y a vraiment cette sorte de tiens pour venger ton licenciement. J'aime cette haine comme ça gratuite des Shanahan pour les Redskins.
Oui, c'est ça. Bon, après, les Shanahan, ils sont pas très.
Non, c'est particulier aussi, mais.
Ils sont dans un délire un peu. Bon, ça a souvent attiré des inimitiés à Kyle Shanahan durant son parcours de coordinateur. C'est ce côté un petit peu, justement. Je sais pas comment dire. Je sais pas si arrogant c'est le bon terme, mais ouais, le côté un petit peu. Un petit peu rebelle, quoi. Ce côté je connais tout mieux et c'est vrai que ça.
Moi, j'ai trouvé ça savoureux. Je suis sûr que Kyle Shanahan a uriné quelque part dans le vestiaire pour marquer son territoire avant de partir.
Après, on peut difficilement leur donner tort. Hein. De toute façon, la gestion de Dan Schneider, de toute façon, depuis des années et des années, ça pourrait être une émission à part entière, tellement ça va n'importe comment. Et la nomination du futur head coach, puisque je doute que Bill Callahan restera, ça va être également un dossier chaud à suivre de très près. Ouais.
Clairement. Le flop, Grégory.
Il y en a beaucoup. Je vais faire plaisir à certains rédacteurs du site. Je vais faire un petit package. Falcons, Chargers, Eagles. Trois équipes qui sous-performent alors qu'il y a quand même largement le matos. Alors encore une fois, je le dis, Chargers, Eagles, il y a quand même le côté blessure, mais du côté des Falcons, ce que j'ai vu, c'était une fin de match. C'était effroyable. J'ose même pas imaginer ce qu'était dans le Mercedes-Benz Stadium parce que franchement, ça devait être un supplice à regarder. Et donc voilà. Donc, comme d'habitude, Dan Quinn. Enfin, mon flop, Arthur Blank, qui garde Dan Quinn semaine après semaine. Je pense que j'ai plus de mots à ce niveau-là.
Bon, mon flop, c'est un flop, c'est à moitié un top, à moitié un flop. C'est que c'est un flop pour lui, un top pour moi. C'est pour Derek Carr et ce plongeon vers la end zone avec perte de balle. Il a fait exactement la même l'an dernier, donc c'est un flop pour lui parce qu'il apprend pas. C'est un top pour moi parce que ça me réjouit profondément. Alors, ça me réjouit pas profondément de me réjouir du malheur de Derek Carr parce que au demeurant, j'aime plutôt bien ce joueur, mais ça me réjouit pour la règle, c'est-à-dire indépendamment du joueur, je mets le joueur totalement à part, mais ça me réjouit profondément que cette règle idiote de tu peux te jeter n'importe comment avec le ballon tant que tu passes la ligne et que si tu perds le contrôle c'est pas grave, et bah ouais, mais ça peut avoir aussi des conséquences une fois de temps en temps, et je trouve ça bien. Pour marquer un touchdown, ce serait mieux d'avoir le contrôle du ballon jusqu'à la fin comme les receveurs, et voilà, ce serait très bien, et pour une fois je savoure d'avoir raison. Voilà pour les flops, on passe aux questions. Les questions de la semaine, Grégory, et j'ai été un mauvais élève puisque je ne les ai ni imprimées ni triées, donc je vais prendre un petit peu à la volée, surtout qu'il y en a pas mal sur le site, et je vais... il y a une question polémique un petit peu, allez, je lance tout de suite de la polémique. Clems, peut-on dire que la pré-saison des Patriots vient juste de se terminer ? Au niveau niveau leurs adversaires, Bills excepté, expérimentation en attaque, expérimentation forcée entre parenthèses.
Bah là en l'occurrence, je sais pas si on peut parler de pré-saison, mais oui, c'est sûr que je pense qu'ils ont déjà vu des calendriers un peu plus corsés. Après voilà, là va vraiment y avoir des tests assez intéressants à voir avec des déplacements à Baltimore, Houston ou Philadelphie. On aura peut-être une idée un peu plus précise de ce que vaut New England des deux côtés du ballon, mais oui, ça en tout cas ça les met en confiance.
Bastien H. Alberola, Packers, Vikings, Bears, Seahawks, Rams, 49ers, parmi ces 6 équipes, seuls 3 ou 4 iront en playoff, qui y va, qui passe à la trappe?
Bears, à mon avis, il y a de très fortes chances maintenant. Après, j'irais peut-être plus. Ouais, Rams ou Seahawks. J'attends de voir parce que je suis toujours pas rassuré. Ça aussi, hein, ça va être. ça va être ma répétition de la semaine, mais ouais, Seattle, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer. Il y a une semaine où ils montent des bonnes choses, la semaine d'après, c'est un peu plus compliqué. Et puis, cette difficulté à générer du pass rush du côté des Seahawks, ça m'interpelle quand même un petit peu. Donc, pour l'instant, Seattle ou Los Angeles, en l'occurrence.
Alors, il y a une question, je regarde. Alors, j'élimine un peu les questions qu'on a déjà traitées. En replay, vous semblez soutenir le trade pour Ramsey de la part des Rams en justifiant que dans la NFL d'aujourd'hui, les équipes agressives sur les trades gagnent des titres. N'oubliez-vous pas un peu que les équipes qui gagnent sont surtout celles qui ont un quarterback sous-payé, rookie ou Brady. La stratégie des Rams est-elle encore tenable maintenant qu'ils surpayent leur quarterback au mieux moyen? Je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de quarterback rookie qui gagnent le Super Bowl, par contre. Ils sont sur le contrat rookie de Vance, les Eagles, ok.
Ouais.
Mais
De toute façon, il n'y a pas énormément d'équipes qui gagnent le Super Bowl ces dernières années, donc.
Voilà. mais je suis pas persuadé que ce soit
Wilson, quand il gagne le Super Bowl, il est rookie, par exemple.
Wilson, oui. Peyton Manning, 2015, il est ultra payé. Les Ravens derrière. Alors Joe Flacco n'avait pas encore pris son contrat, c'est vrai.
Voilà. C'était la fin de son contrat rookie.
Les Packers, Aaron Rodgers, il est déjà payé à ce moment-là. Il a pas encore son énorme contrat, mais il est sur un.
Oui, ouais, mais
en 2010,
je sais pas
s'il est
déjà
payé.
Oui, mais du coup, il a pas un contrat. Il est pas payé à hauteur de. J'ai des doutes.
Ouais, j'ai des doutes. Je pense qu'il est déjà très bien payé. Hein.
Oui, mais ça dépend ce que tu appelles bien payé. Moi, bien payé pour moi, c'est déjà au moins minimum 15 millions la saison.
Alors, quand tu vois les prix
qui sont ceux actuellement, à l'époque de Rodgers, on était déjà.
On a dit en quelle année les Packers, c'est le Super Bowl
2009,
2000,
je crois.
Il est joué en
2010.
Donc c'est, 2010. Ouais, donc c'est la saison 2009. Alors, mais moi, le problème, c'est que je m'y perds toujours dans les structures de contrat. Il a un petit salaire de base, mais il a 7,4 millions de roster bonus.
Non, c'est 2010, hein, Alain.
Ah, 2010, oui, 2010 est joué en 2011, c'est ça?
C'est ça.
Ah oui, non, autant pour moi. Donc 2010, en 2010, il est payé 6 millions de base, 500 000 de roster bonus, donc il a 6 millions et demi.
Ouais, c'est un pourboire pour les équipes NFL, ça. Tu payes ton quarterback comme ça.
Mais alors, le problème, c'est que la structure, elle est bizarre parce qu'il a pris 38 millions en 2013 selon Sportrack. Alors, du coup, je sais pas comment c'était réparti avant, là. Parce qu'il y a 12 millions en 2008, mais il y a moins l'année d'après. J'ai du mal avec les contrats NFL.
Non, mais alors, encore une fois, oui, on va pas analyser dans le détail exactement tout ce qui a été fait à l'époque, parce que ça reste des usines à gaz, mais en tout cas, c'est sûr que, même sans être dans son année rookie, en tout cas, l'idée, c'est durant ces années-là de profiter du fait que ton quarterback n'est pas forcément le plus payé de ton roster pour justement réussir à l'encadrer comme il faut. Après, moi, je dis, il n'y a pas de vérité absolue, encore une fois. Oui, Jalen Ramsey, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir gérer contractuellement tout ça. Il y a Goff, il y a Gurley, il y a Donald. Il commence quand même à y avoir beaucoup de gros contrats, même si, par exemple, un joueur comme Akib Talib sera free agent à la fin de la saison. Et il y a quelques agents libres, en tout cas, qui vont peut-être quitter Los Angeles à cause de ça. Je pense à un Corey Littleton au poste de linebacker. Mais en tout cas, oui, c'est... Encore une fois, même si c'est une vision court-termiste, si ça peut permettre éventuellement à la franchise de gagner un Super Bowl, après, ça dépend si on regarde le coup de demain, d'après-demain ou de la semaine après, mais bon, chacun... mais c'est sûr que oui, forcément, si tout le monde pouvait faire comme Brady, ce serait bien. Mais bon, Brady, il n'a plus rien à prouver à personne. Il est en fin de carrière maintenant. Il a envie de gagner le maximum de bagues. Donc, il met un petit peu plus d'eau dans son vin.
C'est une exception. Hein. Peyton Manning, lui, il prenait toujours le pognon. Je suis en train de regarder un petit peu. Je trouvais cette question intéressante. Dirty Fighter qui disait: on parle très peu d'équipe nationale. Y a-t-il des compétitions internationales de foot US en dehors des USA? Quel serait le top 5 des meilleures nations?
États-Unis,
Allemagne, non.
Le Japon est pas mal.
Ouais.
Canada, Mexique. Oui, en nation européenne, généralement, c'est plutôt l'Autriche et l'Allemagne qui sont avec la France juste derrière. Mais oui, en Europe, à part les Allemands et les Autrichiens, c'est quand même. C'est surtout États-Unis, Mexique, Canada, Japon la majeure partie du temps. Ouais.
Et il y avait une bonne question aussi: est-ce que vous pouvez faire un topic hors saison qui simulerait une compétition opposant les équipes par État en tenant compte du lieu de naissance? Exemple, Californie contre Minnesota, Illinois, New York. Ce serait marrant de voir quels joueurs viennent d'où, tu sais, où est-ce qu'ils pourraient.
Pourquoi pas? C'est un truc qui peut me brancher, ça, tu vois, pour le coup. Mais je sais que Jean-Michel Zappa lui a répondu, et oui, bon. Il y aura quand même, je pense, quelques États qui auront un petit ascendant. C'est souvent les deux, trois mêmes États qui reviennent globalement dans cette équation-là, quoi.
Alors, je suis en train de regarder encore une fois, je suis désolé, je les prends un peu à la volée. Vu les calendriers des Ravens, des Texans, des Chiefs, avec en prime la blessure de Mahomes, est-ce qu'a pu montrer cette équipe des Colts dans les grands matchs? Peut-on la considérer comme un prétendant à la deuxième tête de série? C'est une question de Lou de Nice.
Oui. Oui, oui, on peut, très franchement, hein, vu le boulot qui est fait en défense, vu l'homogénéité globale de l'équipe, et encore une fois, l'homogénéité globale d'ailleurs derrière les Pats, hein, je l'ai dit, il y a peut-être... Si vraiment les Chiefs connaissent un vrai coup de mou avec l'absence de Mahomes ces prochaines semaines, je pense qu'il va quand même y avoir 7-8 équipes qui vont se tirer la bourre entre la deuxième et la 8e, 9e place pour tenter d'accéder au playoff, ouais.
Alors, il y a une question de Daniel at Porto qui dit « Bonjour, si la NFL changeait la façon dont se fait le classement des équipes, au lieu de compter les victoires, défaites et nuls, elle pourrait s'inspirer du système du rugby, victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point, plus bonus, marquer au moins 4 touchdowns, 1 point, même en cas de défaite, perdre par moins de 7 points, 1 point. On pourrait avoir des victoires valant jusqu'à 5 points et des défaites de 2 points. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux répondre le premier ?
Vas-y.
Et alors, surtout, Daniel, ne le prends pas pour toi parce que ce n'est pas du tout personnel. Je trouve que c'est la pire idée de l'histoire de l'humanité. Je déteste, et je le dis, je ne le dirai jamais avec assez d'emphase, le système des points et des bonus du rugby. Je m'en tamponne le coquillard avec une patte d'alligator nain, comme disait l'autre. Une patte d'alligator femelle, on disait. Du nombre de décès marqués ou pas marqués ou de machin, ce qui compte, c'est de gagner. Et je déteste ce système des bonus. Moi qui ne regarde pas le rugby, ça me donne encore moins envie de m'y mettre quand j'entends « Oui, ils ont gagné, mais du coup, parce que là, ils ont marqué 3 essais, mais je retranche 1 et je retiens 2. Alors du coup, ils ont 1 point de moins, mais 1 point de plus parce qu'ils ont mis un essai. Et celui-là, il l'a mis avec la main gauche, du coup, ça fait 1 point de moins. Je déteste ça. Au secours, je ne veux jamais entendre parler de ça. »
Alors, j'aurais peut-être dû répondre le premier pour être un peu plus mesuré, mais si je complète...
Non, c'est moi le patron.
Alors, je te rejoins globalement, je ne suis pas le plus grand fan du système de points et de bonus sur rugby. Maintenant, j'ai presque envie de dire, pour compléter ce que tu dis, comme si les règles actuelles en football américain n'étaient pas suffisamment compliquées. Je pense que si en plus au niveau du pointage, on dira des classements, etc., etc., on rajoute une complexité, je pense que là, on perd définitivement les possibles futurs aficionados.
Et je le répète encore une fois, Daniel, ce n'était pas personnel, c'est une conviction profonde. Je t'apprécie quand même beaucoup, et si tu viens au Hard Rock, je te paye une bière. Question de Bud Fumbler. Bonjour l'équipe, pour cette saison, quelle est la bad good team, cette équipe du haut du panier qui n'est pas si forte, et au contraire la good bad team, cette équipe au bilan négatif mais qui vaut mieux que ça? J'aime bien ces questions de Bud Fumbler. Donc tu sais, cette équipe dont on le disait beaucoup plus avant, on disait c'est la meilleure équipe à 2 victoires du classement.
Ouais, attends, elle est pas mal cette question, je vais essayer de retrouver ça. Je pense que forcément, tu vas peut-être mettre Buffalo dans un certain domaine.
Oui, Buffalo a pas vraiment d'attaque pour moi, donc c'est très fort quand je dis pas d'attaque. Mais oui, pour moi, Buffalo est l'équipe la plus menacée s'il y avait vrai calendrier en face. Donc à 5-1, ils sont un peu plus beaux que leur bilan, je trouve. Enfin, leur bilan est un peu plus beau que ce qu'ils sont.
Bon, après, Arizona, ils ont un bilan flatteur aussi, hein, mais bon, on l'a dit tout à l'heure. Après, mais ça, ils vont pas non plus s'excuser de battre des équipes qui sont pas, qui sont un peu moins fortes. Les équipes qui paraissent plus belles que ce qu'elles sont vraiment.
Je suis pas sûr qu'il y ait des équipes qui aient des bilans qui reflètent pas ce qu'elles sont au fond du classement. Je sais pas si les.
Ah oui, de l'autre côté, oui, c'est vrai, ça je l'ai dit tout à l'heure.
Est-ce que les Lions valent mieux que 2-3-1? Non. Tu vois, ça me choque pas. Tu vois, je les vois pas meilleurs. Non, dans le fond, j'ai plus du mal à en trouver, tu vois. Il y a beaucoup de bilans positifs, hein, d'ailleurs. Donc, les Chargers valent mieux, mais on l'a dit. Les Chargers valent mieux en un sens, mais ils ont jamais l'air de vraiment vouloir être à leur niveau. Donc...
Ah, j'avoue, je sais pas. Là, je suis en train de balayer les équipes. Je ne sais pas si Cincinnati vaut vraiment 0-7, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent kikine. Après, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément à 6-1. Hein, donc,
t'as entendu la stat que j'ai donnée sur leur ligne, a priori, ils valent 0-7.
Non. J'ai souvent défendu Denver, mais là, en l'occurrence, ils m'ont un peu... Ouais, non, peut-être Philadelphie, quoi. Mais même Philadelphie, ils sont à 3-4, mais
oui.
C'est toujours pareil. En fait, tu peux pas vraiment dire qu'ils valent beaucoup mieux que ça. Mais de ce que tu vois depuis le début de la saison, c'est compliqué. Oui, bon, allez, mettons. Allez, Détroit, peut-être. Auckland à 3-3, peut-être. Mais,
juste pour revenir sur les Bengals, je suis d'accord avec toi au sens où, sur certains, c'est des fois déroutant parce qu'ils ont quand même Geno Atkins, ils ont quand même certains joueurs de très bonne qualité. Mais après, ils sont tellement faibles sur les lignes.
Oui, non, voilà, très, très, très clairement. Mais oui, non, c'est sûr, peut-être Détroit, éventuellement, on voit un petit peu mieux de ce qu'on voit. Mais bon, pour ça, il faudra peut-être qu'ils finissent.
Je suis même pas sûr, ouais.
Non, mais si tu fais jouer Détroit sur 3 cartons, oui, ils ont potentiellement une fiche de 5-2, quoi.
Ouais, bon, on va s'arrêter là-dessus. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 314 du podcast Jeune Actu. On vous rappelle que l'émission est présentée cette année encore par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, Game On au Hard Rock Café Paris, c'est les soirées avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5 et évidemment les rencontres ne ratées. Pas ça, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je remercie Grégory qui nous soutient sur Tipeee. C'est pas toi Grégory, mais on remercie Grégory qui nous soutient sur Tipeee.
Non, je ne te remercie pas Grégory de ne pas nous soutenir sur Tipeee.
Donc voilà, mais je te remercie Grégory, toi, d'avoir participé à l'émission de cette semaine. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, TD Actu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram, @YellowRadioSap pour Grégory, @AlainMatei pour moi-même pour les Twitter personnels. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On se retrouve jeudi pour l'émission de présentation, dimanche pour le fauteuil, et on vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Broadcast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.